Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. À l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord, regard sur l'Europe, sa stratégie vis-à-vis de ses approvisionnements en gaz dans un contexte de tension géopolitique entre Moscou et Bruxelles, qui a pris une série de sanctions contre Moscou pour son rôle dans le conflit ukrainien et l'annexion de la Crimée. Gaz et géopolitique en Europe, quels enjeux pour Gazprom alors qu'un tiers du gaz européen provient de Russie et plus de la moitié de ce gaz transite par l'Ukraine? État des lieux sur fond de rivalité, de profonde division des États membres de l'Union européenne avec cette question. L'Union européenne est-elle plus dépendante de la Russie pour son approvisionnement en gaz que la Russie n'est dépendante de l'Union européenne pour ses exportations? Nos invités, Aurélie Brosse, chercheure associée à l'IFRI et consultante pour le Centre d'analyse de l'Observatoire France-Russie de Moscou. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Brosse, chercheur associé à Oxford, professeur et auteur du livre After the US Shale Gas Revolution. Bonjour.
Bonjour et merci pour cette nouvelle invitation.
Gazprom, outil de politique étrangère russe, est-ce que ce qui s'est produit en 2006, 2009 et 2014, je pense aux ruptures d'approvisionnement qui ont eu cours en Europe, est-ce que cela peut se reproduire? Est-ce que ces crises peuvent encore arriver? Thierry Brosse.
Bien écoutez, ces ruptures-là étaient liées au fait que certains pays ne payaient pas leurs factures, en particulier l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine ne s'approvisionne plus en gaz russe et pour ce qui est du transit, Gazprom paye son transit vis-à-vis de l'Ukraine et le contrat de transit court jusqu'en 2019. Donc, pour répondre rapidement à la question, a priori non. Et en plus, il faut se rappeler que ces coupures ont eu un effet d'image assez dévastateur sur Gazprom.
Et l'autre point qu'il faut mentionner, c'est que d'après l'Ukrainian Freedom Support Act, qui a été signé par les États-Unis donc en 2014 dans le cadre des sanctions imposées à l'encontre de la Russie, il est mentionné que des sanctions secondaires peuvent s'appliquer sur Gazprom si des coupures d'approvisionnement venaient à être faites à tout un tas de pays, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN, mais aussi l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie.
Alors, pour aller plus loin sur la question des sanctions, donc un certain nombre d'entre elles ont été décidées à l'encontre de la Russie dans la foulée de ce que j'évoquais précédemment, la question ukrainienne et puis l'annexion de la Crimée. Quel impact sur une compagnie comme celle de Gazprom que ces sanctions, Thierry Brosse?
Pour le moment, pas grand-chose, puisque l'Union européenne a essayé d'enlever le gaz des sanctions, puisque les sanctions touchent plutôt ce qui est le secteur pétrolier, la technologie pétrolière. Et donc, effectivement, Gazprom, pour le moment, arrive à vivre à peu près comme avant. Rappelons que les sanctions sont en Europe jusqu'en janvier 2017 et qu'elles doivent être renouvelées tous les 6 mois. Et que peut-être, vous parliez de la dissension entre les États membres du côté européen, peut-être que ce renouvellement sera de plus en plus difficile à l'avenir.
Et alors, juste une question, cette distinction entre pétrole et gaz, quelle lecture faut-il en faire et comment l'expliquer, Aurélie Brosse?
Les sanctions qui ont été imposées à l'encontre de la Russie, elles ont en fait l'objectif de ralentir la capacité de la Russie à renouveler en fait ses gisements et surtout les gisements pétroliers parce que c'est le secteur qui est le plus taxé en Russie et qui est donc le plus rémunérateur pour le budget de l'État. Après, les sanctions, Gazprom n'est pas sur la liste des entreprises sanctionnées. Et pour le moment, les entreprises qui sont sur la liste de sanctions, ce sont Rosneft, Gazpromneft, donc qui est le bras de Gazprom qui s'occupe des activités pétrolières, et Novatek. La conséquence des sanctions, c'est bien entendu que ça a ralenti un certain nombre de projets russes, certains dans le secteur gazier, comme le projet Yamal LNG, où les actionnaires ont été obligés de trouver des alternatives, comme par exemple des nouvelles sources de financement. Ils se sont tournés vers des banques russes, vers des banques asiatiques, etc.
Là aussi, je me permets d'approfondir sur la question de la Russie. Gazprom n'est pas le seul fournisseur de gaz en Russie. Quelle est sa situation à l'échelle de la Russie, Aurélie Brosse?
Gazprom, sur son marché domestique, en fait, est concurrencé de plus en plus par des entreprises qu'on appelle les indépendants. Donc, ça regroupe Rosneft, Novatek, tout un tas d'autres groupes beaucoup moins connus en Europe. Et ces entreprises, elles sont en train de gagner des parts de marché sur le marché domestique et elles bénéficient, en fait, d'un environnement législatif qui est beaucoup plus favorable pour elles, puisque, par exemple, les prix sur le marché russe sont régulés. Gazprom est obligé de vendre à un tarif précis fixé par l'autorité des prix. Et donc, les autres entreprises, donc les indépendants, peuvent, eux, vendre du gaz à un prix largement inférieur au prix régulé, ce qui génère en fait une concurrence très très forte.
Donc Gazprom n'est pas le roi du gaz en Russie, c'est cela qu'il faut entendre.
Exactement.
Thierry Brosse.
Mais Gazprom garde le monopole d'exportation pour le gaz gazeux. Et donc, effectivement, pour nous, côté européen, quand on regarde, on parle du gaz gazeux russe ou du gaz de Gazprom, c'est pour nous le même.
Gaz gazeux par opposition au gaz liquide.
Au gaz liquide. Rappelons en plus, ce que Aurélie racontait est tout à fait exact, c'est que l'État russe est en train de créer une concurrence entre sociétés et que cette concurrence, qui est quelque chose d'à peu près unique au monde, puisque vous avez une concurrence dans, à l'intérieur d'un État entre des sociétés qui sont nationales, qui sont plus ou moins détenues par l'État, va générer la connaissance des coûts et des prix. Et effectivement, ce qu'Aurélie disait, c'est que aujourd'hui, les concurrents de Gazprom peuvent vendre du gaz moins cher, mais toujours être profitables en Russie.
Alors, l'actualité autour du gaz en Europe, au sein de l'Union européenne, elle a une certaine intensité, cette actualité. Je commence par un exemple, la Bulgarie, qui dépend presque entièrement des livraisons de gaz russes via l'Ukraine. Elle a inauguré tout récemment, la Bulgarie, un gazoduc connectant son réseau gazier à la Roumanie afin de diversifier ses sources d'approvisionnement. On est là dans la juste, ou en tout cas une conséquence directe de ces crises que nous évoquions en début d'émission, 2006, 2009, 2014, Thierry Bros.
Tout à fait, c'est un des objectifs de la Commission européenne, c'est cette diversification des approvisionnements. Rappelons aussi que cette diversification des approvisionnements permet de sécuriser l'approvisionnement, mais permet aussi de mettre en concurrence les divers fournisseurs. Et donc effectivement, en ayant cette capacité à pouvoir pousser du gaz d'ouest en est ou accepter du gaz naturel liquéfié, effectivement, on arrive à faire une concurrence sur le marché européen et à faire baisser les prix.
Alors, la Bulgarie est un exemple. Il y a aussi les pays baltes qui cherchent à sécuriser leur approvisionnement avec un certain nombre de mesures. Bref, ces crises qu'on a connues ont généré toute une série de décisions à la fois économiques et à la fois politiques, Aurélie Bros.
Les crises avec la Russie, en fait, elles ont eu la particularité de faire prendre conscience, en fait, des questions de dépendance. Mais là encore, ces dépendances, il faut les nuancer parce qu'elles sont, en fait, doubles. Il y a une dépendance européenne, mais il y a aussi une forte dépendance russe. Gazprom exporte 80% de son gaz vers le marché de l'Europe occidentale. A contrario, les pays d'Europe orientale qui sont dépendants de Gazprom entre 50 et 100%, ça ne représente que 20% des ventes de Gazprom. Donc, on voit quand même que les questions de dépendance sont très différents en fonction, en fait, de l'angle d'analyse.
Alors, dépendant... Oui, Thierry Bros.
Oui, je voudrais juste rappeler à vos auditeurs, on parle du prix du gaz, mais pour vos auditeurs, ce qui intéresse, c'est le prix de la facture gazière qu'ils vont recevoir. Et dans la facture gazière qu'ils vont recevoir, 50% c'est l'infrastructure et 50% c'est effectivement la molécule, c'est-à-dire
alors,
le gaz.
Infrastructure, on est d'accord, ce sont les tuyaux, les
unités de regasification, ce sont les bateaux pour bouger ce gaz naturel liquéfié. Et donc, effectivement, vous parliez de ces nouveaux tuyaux que souhaite l'Europe. Il y a un moment où, lorsque vous créez des nouveaux tuyaux, vous arrivez à faire baisser le prix de la molécule. Et puis, il y a un moment, lorsque vous créez trop de tuyaux, eh bien, votre facture va augmenter et le prix de la molécule ne va plus baisser. Donc, c'est aujourd'hui la problématique de l'Union européenne, essayer de trouver le juste milieu dans des infrastructures avec une inconnue majeure, c'est le fait que la demande énergétique en Europe baisse.
Alors, elle baisse et elle est vouée à continuer de baisser. C'est un peu la question du gaz. On en a besoin. Il y a aussi ce transfert, en tout cas beaucoup de charbon d'un côté, de moins en moins pour des raisons aussi de pollution et d'impact sur le climat, avec comme conséquence un besoin en gaz plus important. Donc finalement, on ne sait pas très bien où se situer par rapport à cette baisse que vous évoquez.
Alors, deux choses. On peut parler d'abord d'énergie primaire, donc de la totalité de l'énergie que l'on consomme, que ce soit du gaz, que ce soit du charbon, que ce soit du nucléaire, que ce soit d'une renouvelable. Et celle-là, elle est en baisse et elle est en baisse à peu près régulière et elle va se poursuivre. C'était les objectifs de l'Union européenne pour 2020 et c'est les objectifs de l'Union européenne pour 2030. Et ensuite, effectivement, ce que vous évoquez, c'est cette concurrence entre énergies et c'est là où effectivement c'est plus compliqué à imaginer et à faire un scénario. C'est effectivement le charbon versus le gaz, le charbon et le gaz versus le nucléaire, hein, puisqu'effectivement en France aujourd'hui on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, et donc on peut avoir un petit rebond de la demande gazière, tel qu'on le voit au Royaume-Uni où des centrales à charbon ont été arrêtées, tel qu'on le voit en France avec des centrales nucléaires qui sont momentanément arrêtées, mais encore une fois, si on regarde l'énergie au niveau global, donc en énergie primaire, notre énergie primaire en Europe, elle baisse depuis 2006 et elle va continuer à baisser.
Donc finalement, ce que l'Europe est en train de payer aujourd'hui, c'est le prix, quand on évoque les grands tuyaux, et on va en parler, il y a deux grands projets déjà plus ou moins avancés, mais l'Europe paye la sécurisation de son approvisionnement en énergie. C'est cela qu'il faut comprendre le plus, comme en tout cas une priorité pour l'Europe aujourd'hui.
Ça a toujours été l'objectif de tous les gouvernements en énergie. Rappelez-vous l'Agence internationale de l'énergie et le pétrole. C'était effectivement ça. Donc on paye dans le pétrole des stocks stratégiques pour avoir cette sécurité au cas où. Et donc effectivement, bien dans le gaz, on va payer de l'infrastructure qu'on n'utilisera pas totalement au cas où.
C'est un choix en fait, et quand on regarde l'union de l'énergie, ça a été clairement dit, le but c'est vraiment de sécuriser les approvisionnements, de sécuriser notre alimentation en créant tout un tas d'infrastructures, et là encore la question est de savoir quel sera l'usage en fait de ces infrastructures à l'avenir. Mais je crois que pour revenir sur ce que disait Thierry, la question aussi par rapport à la sécurisation du côté des producteurs, elle est aussi de savoir quel est en fait le rôle du gaz. Est-ce que l'on considère le gaz comme simplement une énergie de transition vers une économie moins carbonée, et dans ce cas-là les investissements sont encore nécessaires, ou au contraire est-ce qu'on met le gaz au même niveau que le pétrole et le charbon, on estime que c'est une ressource énergétique qui pollue et donc on doit arrêter avec ça. Et dans ce cas-là, ça ne vaut peut-être pas la peine d'investir autant que ça dans l'exploration et la production.
En tout cas, de ce que je comprends, les choix n'ont pas encore été tranchés.
Non, et c'est compliqué. Beaucoup d'analystes se sont trompés pendant longtemps et vous avez des scénarios différents. Regardez l'Agence nationale de l'énergie qui vient de publier encore un scénario où il voit une demande gazière en croissance dans les années à venir. Et ce que disait Aurélie est tout à fait exact. Si le gaz est vu comme une énergie fossile polluante, eh bien effectivement, il va sortir du mix plus rapidement que ce qu'on le pense. Par contre, si c'est vu comme une énergie de transition qui permet d'aller vers une transition énergétique à moindre coût, effectivement, il va rester un peu plus longtemps. Mais cette inconnue-là pèse sur les investissements et pèse sur les scénarios.
Alors, les investissements, les tuyaux, là aussi, une actualité assez foisonnante. On va commencer par TurkStream. On a vu la Turquie et la Russie tout récemment sceller leur réconciliation en dépit de désaccords sur la Syrie, avec la signature d'un projet majeur de gazoduc à l'occasion d'une visite de Vladimir Poutine à Istanbul. Ce fameux projet TurkStream qui vient s'inscrire sur un autre projet qui, lui, a avorté d'une certaine manière, c'est South Stream. Voilà, la décision a été prise en 2014. TurkStream et ce rapprochement turco-russe, est-ce que on peut y voir un échec pour l'Union européenne, et évidemment une conséquence en tout cas de la crise ukrainienne?
C'est effectivement la géopolitique des tuyaux. Alors, est-ce un échec pour l'Union européenne? Non, puisque l'Union européenne ne voulait pas de South Stream. South Stream ne répondait pas aux règles du troisième paquet énergétique. Et donc, c'est ça qui a poussé les Russes à supprimer, à suspendre cet investissement. Investissement qui avait été partiellement dépensé, c'est-à-dire que l'achat des tuyaux était déjà fait. Donc, effectivement, après le coup d'État avorté en Turquie, les relations entre la Russie et la Turquie se sont fortement améliorées. Et les Russes en ont profité pour essayer de signer et maintenant construire ce fameux tuyau qui va alimenter directement la Turquie et qui évitera le transit via l'Ukraine, puisque une partie du gaz turc passait par l'Ukraine.
Aurélie Brosse.
Je pense que pour revenir sur ce que dit Thierry et la géopolitique des tubes, en fait, on peut constater que depuis 2014, on a un retournement de situation. Avant, on avait des crises gazières qui menaient à des crises politiques. Donc, on fait la crise en Ukraine de 2006-2009. Et depuis 2014, on voit en fait un retournement de situation. Ce sont des crises politiques qui mènent à des crises énergétiques. Et donc, dans le cas de TurkStream, le projet a été arrêté pendant plusieurs mois suite à l'avion de chasse russe qui avait été abattu par les forces turques, etc. Donc, on voit vraiment que la politique pèse de plus en plus en fait sur tout un tas de projets.
Alors, l'autre grand tuyau, Nord Stream 2, c'est donc qu'il y avait un Nord Stream 1. Ce Nord Stream 2, c'est principalement un accord, une entente entre l'Allemagne et la Russie, qui ne fait pas que des satisfaits, et notamment les pays de l'ancienne Europe de l'Est qui ne voient pas du meilleur œil ce Nord Stream 2. Une explication, Thierry Brosse.
Oui, permettez-moi de revenir juste un peu en arrière et parler du Nord Stream 1, puisque pour parler du Nord Stream 2, il faut regarder le Nord Stream 1. Nord Stream 1 a été construit, c'est un tuyau effectivement qui alimente directement l'Allemagne de la Russie via la Baltique, et a été construit sans respecter ce fameux troisième paquet énergétique, puisque à l'époque, on pensait que c'était un tuyau qui allait approvisionner du gaz directement du champ gazier de Stockmann. Ce tuyau, aujourd'hui, il y a une nouvelle actualité puisque l'Union européenne vient d'autoriser Gazprom à utiliser ce tuyau à une capacité bien plus élevée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Gazprom ne pouvait l'utiliser qu'à 60%. Aujourd'hui, ils vont pouvoir l'utiliser à 80%. Donc, effectivement, ça encore élimine du transit via l'Ukraine. Nord Stream 2, c'est une décision d'investisseurs privés, c'est-à-dire Gazprom et dans certains cas, ses partenaires européens, on ne sait pas sous quelle forme ils vont arriver. Et leur objectif, l'objectif de Gazprom, c'est effectivement un objectif d'abord politique qui est d'éliminer tout transit via l'Ukraine. Alors, les Allemands y sont favorables, puisqu'effectivement, ça vous permet d'avoir du gaz directement. Donc sans risque de transit, sans votre première question, risque de coupure, cette question-là devient irrélevante. Évidemment, pour les pays de l'Europe de l'Est, la question se pose, eux, d'avoir du gaz qui vient de l'Est et non pas de l'Ouest, et une question du transit, donc du prix du transit, donc des revenus du transit.
Aurélie Brosse.
Pour le projet, en fait, dans une vision purement russe, il faut comprendre en fait que Gazprom a envie de faire basculer en fait ces flux. Avant, on avait des flux qui allaient d'est en ouest, et maintenant l'objectif de Gazprom, c'est de créer des flux nord-sud. Et donc le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2 font partie en fait de cette stratégie de redirection des flux. Et tout à l'heure, vous disiez donc que le South Stream est un projet qui a avorté. Dans une logique purement russe, l'idée, c'était de pouvoir alimenter la zone balkanique et l'Italie avec le South Stream. Le projet ne va pas aboutir, donc il faut continuer à alimenter ces marchés. Donc l'objectif de Gazprom, c'est de passer par le Nord Stream, utiliser les interconnexions qui se font sur le territoire européen, ce que Thierry expliquait tout à l'heure. On a de la capacité pour transporter notre gaz et maintenant les États sont interconnectés entre eux, pour finalement alimenter en fait les marchés plus au sud. Pour ce qui est du soutien allemand, là encore, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement actuel. Mais comme vous le savez, donc il y a des élections qui vont avoir lieu en 2017. Et la question est de savoir si le projet obtiendra le même soutien avec une nouvelle coalition. Là, pour le moment, on est dans une grande coalition entre chrétiens-démocrates et le SPD, donc les plutôt socialistes. La question, le soutien allemand n'est pas garanti à 100% si la coalition venait à changer. Par exemple, vous avez des voix qui s'élèvent de plus en plus du côté allemand et qui critiquent fortement le projet. Donc, le porte-parole de cette critique, c'est Röttgen, donc l'ancien ministre de l'Environnement. Et on peut imaginer qu'avec une coalition, par exemple, jamaïque, donc chrétien-démocrate, libéraux, verts, le soutien allemand pourrait être remis en question.
Donc, ce qu'il faut retenir, si on devait résumer un peu cette première partie d'émission, c'est que finalement, les choses sont sans cesse mouvantes. Hein, on l'a bien vu avec des désaccords politiques et puis finalement des réconciliations, comme on le voit sur la question de la Turquie et de la Russie. Pour terminer cette première partie, j'ai tout de même cette question. Finalement, l'Union européenne, est-ce qu'elle est plus dépendante de la Russie aujourd'hui pour son approvisionnement en gaz que la Russie n'est dépendante de l'Union européenne pour ses exportations? Thierry Brosse.
Je pense que ce que l'Union européenne dit et ce qui est tout à fait exact, c'est une interdépendance. Et donc, c'est pour ça que dans la problématique des sanctions, on n'a pas pu mettre de sanctions sur le gaz russe. Et on ne peut pas faire sans. Je pense que les Russes, Aurélie le confirmera, les Russes ne peuvent pas faire sans nos euros. Et donc, effectivement, c'est une interdépendance et il faut savoir gérer cette interdépendance dans les moments où tout va bien comme dans les moments où tout va plutôt mal et où il y a des sanctions.
Interdépendance veut dire aussi terrain de discussion et terrain de compromis. En tout cas, on a tendance à opposer en permanence Gazprom à l'Union européenne. D'une certaine manière, on a un peu tort, Aurélie Brosse.
Jusqu'à 2014, je dirais, avant la crise ukrainienne, il y avait vraiment un travail, une sorte de politique des petits pas, en fait, qui était élaborée entre l'Union européenne d'une part, Gazprom de l'autre, où chacun essayait de se réunir. Il y avait eu cette feuille de route conjointe qui avait été publiée en 2013, où on élaborait une stratégie commune avec des étapes 2020, 2030, 2050, etc. Donc c'était un dialogue qui était compliqué, mais pas impossible. Et le problème, c'est que la crise ukrainienne a vraiment bloqué tout ça.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Aurélie Brosse et Thierry Brosse dans quelques instants. A tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la question du gaz en Europe. Nous retrouvons nos invités, Aurélie Bros, chercheure associée à l'IFRI et consultante pour le centre d'analyse de l'Observatoire France-Russie à Moscou, et Thierry Bros, chercheur associé à Oxford, professeur et auteur du livre After the US Shale Gas Revolution. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission ces deux grands tuyaux pour l'Europe, avec déjà cette réconciliation entre la Turquie et la Russie qui va permettre la construction et d'avancer plus en avant avec ce grand projet appelé Turk Stream. Et puis Nord Stream 2, projet qui a pour piliers principaux l'Allemagne et la Russie. Tout cela en conséquence d'une certaine manière aux crises qui ont eu cours ces dernières années en termes d'approvisionnement visant l'Ukraine. La date prochaine importante, en tout cas une sorte de tournant, c'est le 1er janvier 2020. Il nous reste un peu de temps, mais tout juste. À cette date, le contrat qui lie la Russie et l'Ukraine en termes d'approvisionnement prendra fin. Qu'est-ce qui va se passer après, Thierry Bros?
Les contrats, celui d'approvisionnement et celui de transit. Alors, ce qui va se passer, vous avez raison de dire 2020, c'est assez tôt. La Turquie, avec TurkStream, aura une route indépendante et donc n'aura plus besoin de passer via l'Ukraine, de transiter via l'Ukraine. Pour l'Europe, la question reste posée, puisque Nord Stream 2 n'est toujours pas lancé. La façon dont la joint venture va se mettre en place n'est toujours pas décidée. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont souhaité fortement augmenter le prix de leur service de transit, une multiplication par 4 qui n'est pas acceptée par Gazprom. Donc effectivement, on vous a dit que tout allait bien, que les flux continuaient. Par contre, effectivement, il y a de l'autre côté de nombreux recours aux tribunaux d'arbitrage internationaux pour essayer de résoudre tous ces problèmes.
Multiplication par 4, ça n'est pas rien. L'Europe a un droit de regard sur cette décision de l'Ukraine ?
Non, l'Europe, pour le moment, ne s'est pas prononcée sur cette décision-là. Mais effectivement, vous avez raison, à la fin, ce sera le consommateur européen qui va payer.
Aurélie Bros. Par rapport au droit de regard de l'Europe, on va dire que l'Ukraine, qui est un État membre de la communauté de l'énergie, doit appliquer en fait le droit européen en matière d'énergie et donc ce fameux troisième paquet énergie qui pose énormément de problèmes avec Gazprom. Vous avez dans cette directive gazière de 2009 tout un tas d'obligations sur la régulation des prix du transit. Donc on peut s'attendre à ce que le régulateur ukrainien ait un jour à trancher sur ça. Et effectivement, l'Europe indirectement peut avoir un certain droit de regard, mais jusqu'à présent, comme le signalait Thierry, Bruxelles ne s'est pas manifestée sur ça.
Alors pour aller plus loin, j'ai cette question. Est-ce que l'avenir de Gazprom, dont on a bien compris certaines difficultés qui lui sont faites, n'est pas davantage à regarder du côté de l'Orient, à l'Est, qu'en Europe ?
Oui, c'est une question que s'est posée l'État russe et Gazprom depuis plus de 10 ans. Et effectivement, en 2014, un contrat a été signé avec les Chinois. Aujourd'hui, vous évoquiez les deux tuyaux Turk Stream, Nord Stream 2, mais en fait, Gazprom en construit un nouveau en ce moment, qui est le Power of Siberia, celui qui va alimenter directement la Chine. Et donc, effectivement, on peut imaginer qu'à l'horizon 2020, Gazprom pourra alimenter la Chine. Encore une fois, la Chine, ça sera un nouveau marché, mais ça ne sera pas forcément l'Eldorado, puisque on parlait des efficiences énergétiques. Les Chinois aussi arrivent à un moment où ils consomment non pas moins d'énergie, ils n'en sont pas là, mais une consommation d'énergie qui a plutôt tendance à arriver à une asymptote.
Alors, Gazprom, dont on peut juste rappeler, on l'a précisé dans la première partie de l'émission, on le rappelle maintenant, que c'est finalement le plus grand fournisseur de l'Union européenne. Plus pour très longtemps, les choses sont en train de bouger, une concurrence qui s'installe. Quel est l'avenir de Gazprom en Europe ?
Effectivement, le plus gros contrat qu'a Gazprom aujourd'hui, ça sera finalement le contrat avec les Chinois. Mais encore une fois, si on regarde les volumes, le contrat chinois, c'est 38 milliards de mètres cubes par an. Gazprom alimente l'Europe à hauteur de 120 milliards de mètres cubes. Donc, encore une fois, l'Europe restera le premier marché pour Gazprom et l'Europe aura comme premier fournisseur Gazprom pendant longtemps, d'où ma réponse tout à l'heure sur l'interdépendance.
Aurélie Bras.
Pour revenir sur ce que Thierry disait par rapport au tube, il faut dire que dès qu'on construit un gazoduc, la vente devient régionalisée. Et dans la stratégie des entreprises russes, mais aussi du gouvernement russe, c'est d'essayer de limiter en fait cette régionalisation des ventes en essayant de vendre le gaz liquide et d'accéder en fait au marché mondial. Et c'est pour ça que le gouvernement russe, conjointement avec le soutien des grandes entreprises énergétiques russes, avait élaboré une stratégie pour exporter du gaz naturel liquide. Donc il y a eu beaucoup de projets qui ont commencé à se mettre en place. Le plus célèbre, c'est Yamal LNG qui va théoriquement commencer à pouvoir exporter à l'horizon de 2017. Mais ces projets ont été aussi ralentis suite à la conjoncture économique et aux sanctions. Mais l'objectif véritablement de la Russie, c'est d'essayer de mondialiser la vente pour essayer d'être beaucoup moins dépendant. Justement, ces situations d'interdépendance très très fortes, elles peuvent être aussi une arme à double tranchant.
L'élection de Donald Trump aux États-Unis, quel impact sur la politique énergétique de Washington et a fortiori sur l'Europe, l'Union européenne, Thierry Bros?
Peut-être que l'intervention des États-Unis dans les sanctions contre la Russie va être réduite. On voit d'ailleurs, je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'au niveau européen, c'est de plus en plus compliqué à mettre des sanctions sur la Russie. Regardez ce qui s'est passé au Conseil de l'Europe en octobre dernier. Et donc, effectivement, on peut imaginer que le niveau de sanctions vers la Russie baisse. Et puis, on peut aussi imaginer que le niveau de soutien américain vis-à-vis de l'Ukraine va baisser aussi. Et donc, vous posiez la question tout à l'heure, lorsque l'Ukraine souhaite multiplier par 4 son prix de transit, est-ce que la Commission européenne a un droit de regard? Je vous ai répondu non, mais peut-être que si l'Ukraine est moins soutenue par les Américains et moins soutenue par l'Europe, eh bien effectivement, elle va être obligée de revoir sa position sur le prix de transit.
Alors l'Ukraine moins soutenue par les États-Unis du simple fait d'un possible rapprochement entre Vladimir Poutine et le président élu américain. C'est cela qu'il faut entendre, Aurélie Bros.
Ce qu'il faut dire pour la Russie, c'est une économie qui est, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une économie qui dépend énormément de la vente des hydrocarbures. À partir du moment où un gouvernement américain et les États européens ont imposé en fait des sanctions, ça a été une sorte de déclic en fait à Moscou, où là, finalement, il y a eu vraiment une prise de conscience sur la nécessité de s'adapter pour limiter autant que faire se peut les conséquences des sanctions sur le secteur essentiellement pétrolier, mais aussi gazier, comme on l'a vu avec Yamal, qui a souffert en fait des sanctions. Donc, effectivement, avec l'élection de Donald Trump, on peut peut-être envisager des relations plus apaisées entre les États-Unis et la Russie, mais dans tous les cas, Moscou ne va pas changer sa ligne stratégique, qui est de s'adapter pour limiter autant que faire se peut le poids des sanctions. Donc ça passe par une politique de dédollarisation des projets, par exemple. Ça passe aussi par un renforcement de la coopération avec les entreprises chinoises qui deviennent des pourvoyeurs de technologies, mais aussi un renforcement des relations avec les banques chinoises qui accordent des lignes de crédit et ainsi de suite. Donc finalement, ça, à mon avis, ça va rester tel quel et ça ne changera pas.
Alors au-delà de la question des sanctions et du rapprochement possible entre Donald Trump et Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut imaginer les États-Unis devenir concurrent de Gazprom en Europe, Thierry Bros?
Ils le sont déjà, puisque en ayant fortement augmenté leur production gazière, les États-Unis doivent absolument trouver de nouveaux marchés, que ces nouveaux marchés sont du gaz naturel liquéfié et que ce gaz naturel liquéfié, il va dans le monde entier et donc va se retrouver en Europe et se retrouve déjà en Europe de façon très marginale. Mais on a une nouvelle concurrence et c'est pour ça aussi que l'Union européenne a souhaité avoir de nouveaux terminaux de regazification. On a une nouvelle concurrence avec un nouvel acteur, les États-Unis, qui viennent concurrencer Gazprom et qui ont un impact sur les prix, un impact baissier sur les prix.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, nouvel acteur, les États-Unis ne sont pas les seuls, je pense à l'Iran. Russes et Iraniens sont fortement impliqués dans le conflit syrien aux côtés du régime, alors que leurs intérêts sur le plan pétrolier et gazier sont fortement concurrentiels. On peut rappeler que ce sont deux pays sous sanctions, l'Iran et la Russie. Est-ce qu'il faut s'attendre à des différends politiques à courte échéance en termes de gaz entre les uns et les autres, Thierry Bros?
L'Iran, c'est effectivement un des États qui détient le plus de réserves gazières, mais encore une fois, il est sous sanction, donc il n'a pas accès à la technologie américaine de liquéfaction du gaz, il n'a donc pas pu exporter. Je vous rappelle qu'il partage le plus grand champ gazier au monde avec le Qatar, qui lui est le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié. Et donc, même si les sanctions étaient levées du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas, la mise en place d'unités de liquéfaction en Iran prendrait presque une décennie. Donc, on n'est pas dans un système où on va changer du jour au lendemain la relation. Et puis, je vous rappelle que les Russes et l'OPEP sont en ce moment en train de discuter sur une possible réduction de la production pétrolière. Donc, autant je vous ai parlé de Russes, US en tant que concurrents sur le marché gazier en Europe, autant la Russie et l'Iran seront plutôt partenaires.
Aurélie Brosse.
La relation entre Téhéran et Moscou, elle, dans le secteur énergétique, elle s'articule en fait autour de trois volets. Vous avez la coopération nucléaire, vous avez la coopération très limitée dans le secteur pétrolier dans le cadre des discussions avec l'OPEP, et vous avez quid du secteur gazier. Je pense que les Russes ont tout à fait conscience que l'Iran, comme le disait très bien Thierry, n'est pas encore en mesure d'exporter du gaz naturel, que ce soit sous forme gazeuse ou liquide, parce que les infrastructures n'existent pas. Et à l'heure actuelle, vous avez tout un tas de problèmes qui sont liés aux sanctions est lié en fait aux caractéristiques même du marché iranien qui empêchent en fait cette exportation. Les sanctions, elles empêchent l'Iran d'accéder à la technologie mais aussi au marché des crédits pour pouvoir construire l'infrastructure. Mais en interne, vous avez aussi une demande galopante, vous avez aussi un cadre contractuel qui est extrêmement complexe et qui est très dissuasif pour les entreprises énergétiques internationales d'investir en Iran. Vous avez un manque de garantie. Donc tout ça, les Russes en ont bien conscience et c'est pour ça que sur le court moyen terme, on ne peut pas forcément voir la relation entre Téhéran et Moscou comme une possible rivalité ou concurrence.
Alors pour poursuivre sur l'actualité qui peut ou pas avoir un impact sur la politique énergétique commune à l'Union européenne, la question du Brexit et le départ plus ou moins proche du Royaume-Uni de l'Union européenne, quelles conséquences pour l'Europe en termes énergétiques, Thierry Brosse ?
Un tout petit peu d'histoire. Les Anglais sont rentrés en Europe en poussant pour une libéralisation des marchés gaziers. Donc aujourd'hui, ce que l'on a, c'est finalement une conséquence de l'entrée du Royaume-Uni en Europe il y a de nombreuses années. Ils ont fait volte-face il y a quelques années en achetant, par exemple, du nucléaire à prix fixe pour une durée de 30 ans. Et aujourd'hui, ils partent de l'Union européenne. Alors, quelle va être la position de l'Union européenne, c'est une question. Quelle va être la position des Britanniques chez eux ? On peut dire que, par exemple, sur tout ce qui est CO2, donc émissions et polluants, eh bien, le gouvernement britannique avait une avance vis-à-vis de l'Union européenne, puisqu'ils avaient mis en place une taxation sur le CO2 et que cette taxation avait eu comme conséquence de sortir le charbon du mix électrique au Royaume-Uni, et ce, depuis 12 mois. Alors, en partant, je crois que Bruxelles va devoir revoir son paquet énergétique, mais surtout sa politique sur le CO2, c'est-à-dire que quid du système des émissions de CO2 dans un monde où on n'est plus que 27, et je vous rappelle que les émissions de CO2, c'est un marché des commodities, comme on dit en anglais, mais c'est un marché un peu bizarre puisque ce sont des polluants, des droits à émissions qui sont émis par les États. Et donc, il va falloir revoir ça. Et donc, effectivement, je pense que ça peut être vu comme une chance pour l'Europe pour essayer de revoir la politique énergétique européenne à l'aune des 5 révolutions qu'on a vécues. Je vous rappelle qu'en 10 ans, on a quand même vécu 5 grandes révolutions énergétiques, celle du gaz de schiste, celle du pétrole de schiste, celle des efficiences énergétiques, celle du renouvelable et demain celle du stockage d'énergie. Et donc, peut-être que Bruxelles peut trouver dans cette sortie-là une façon de revoir un peu cette politique énergétique dans son ensemble.
Alors justement, on va rester, pour terminer cette émission, sur la politique énergétique européenne, pour comprendre. Est-ce que l'Europe a une stratégie aujourd'hui ? Si oui, quelle est-elle ? Et quelles sont ses difficultés ? On l'a bien compris, en particulier quand on a évoqué la question de Nord Stream 2, ce tuyau dont les piliers sont principalement Moscou et la Russie, avec Moscou et l'Allemagne, avec ce qu'on évoquait, les réticences des pays de l'ancienne Europe de l'Est. Donc une Europe, somme toute, assez divisée sur la question énergétique comme sur d'autres questions. Mais pour reprendre ma question, quelle est aujourd'hui la stratégie de l'Europe en termes de politique énergétique ?
La politique énergétique européenne, elle a été définie dans ce qu'on appelle les objectifs pour 2030. Mais ces objectifs étaient définis dans un marché européen où le Royaume-Uni faisait partie de ce système-là. Encore une fois, je pense que la grande question pour Bruxelles, c'est qu'est-ce qu'on fait des problématiques de CO2 dans un monde post-COP21, même post-COP22, avec la question de que va faire Donald Trump sur ces sujets-là. Est-ce que nous, on continue? Est-ce qu'on accélère? Ou est-ce que finalement, on cale en race campagne, puisque pour le moment, le trading de CO2 n'a pas donné les résultats escomptés?
Alors, on continue, on accélère, sur quoi, pour bien comprendre ?
Sur le trading de CO2, l'Union européenne pourrait utiliser la sortie du Royaume-Uni comme un moyen de revoir le niveau de permis et donc de relancer le prix du CO2, puisque plus vous augmentez le prix du CO2, plus effectivement vous poussez le charbon en dehors du mix énergétique en Europe.
Aurélie Brosse.
Pour la stratégie de l'Union européenne, il y a le document qui a été publié en 2015 sur l'Union de l'énergie et les points ont été énoncés. Donc vous avez vraiment la sécurisation des approvisionnements, il y a la nécessité de créer une stratégie pour l'importation de gaz naturel liquide, etc. Et pour revenir sur la relation entre l'Europe et la Russie, on voit que la Russie en fait n'est mentionnée qu'une fois dans ce document et on dit que lorsque les conditions seront favorables, on reprendra le dialogue. La question est de savoir aussi sur le long terme ce que l'Europe attend en fait dans ce partenariat énergétique avec la Russie. Est-ce qu'on a envie de se tourner le dos mutuellement ou pas, ou alors est-ce qu'on a envie de relancer le dialogue? Et là encore, une fois de plus, cette relation, elle ne pourra pas être analysée sans prendre en compte aussi ce qui se passe sur le marché russe.
Alors, relance du dialogue, sécurisation des approvisionnements, on a bien compris que j'ai mal entendu ce que vous avez dit, du côté de la sécurisation des approvisionnements, l'affaire est entendue, il n'y a plus aujourd'hui globalement de problème. J'ai cette question, est-ce que finalement la Russie a perdu sa place en matière d'approvisionnement de gaz en Europe? Je pense à ces découvertes en Méditerranée orientale. Est-ce que finalement Moscou n'a pas joué un peu avec le feu? Voilà, avec toutes les découvertes qui ont cours aujourd'hui, finalement une place à venir largement inférieure à ce qu'elle l'est aujourd'hui. Thierry Brosse.
Perdu sa place, question intéressante, ça dépend comment vous le regardez. Si vous le regardez comme une journaliste qui doit effectivement faire l'actualité, c'est peut-être ça. Mais rappelez-vous que la Russie, c'est un grand pourvoyeur de pétrole, c'est un grand pourvoyeur d'uranium en Europe et qu'on n'en parle jamais. Donc ça dépend comment on regarde, mais peut-être que avoir une relation plus apaisée, ça fait peut-être perdre la place de la une des journaux, mais ça permet d'avoir, encore une fois, une relation politique plus apaisée.
Relations politiques plus apaisées, c'est vrai qu'il y a une place pour ça et que davantage de voir cette confrontation, en tout cas c'est le logiciel sur lequel on est placé depuis des années, entre les Russes et les Européens, en tout cas le gaz et les autres énergies peuvent être un vrai terrain de conciliation entre les uns et les autres, Aurélie Brosse.
Dans la relation russo-européenne, je pense qu'on a pris conscience en fait de cette interdépendance qui est très très forte en fait entre les deux parties. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, et c'est ce qui explique aussi les tensions qui ne cessent de croître finalement, c'est chacun en fait essaye de rééquilibrer la situation en essayant de diminuer la dépendance. Comme on l'a signalé tout à l'heure, Moscou essaie de multiplier les projets vers l'Asie, essaie de multiplier les projets pour exporter du gaz naturel liquide, etc., pour contrebalancer cette dépendance européenne et ce dialogue avec les États membres qui tend en fait à se complexifier eut égard de l'application du droit européen. Quant à l'Europe, elle-même, elle cherche à rééquilibrer sa dépendance en essayant de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, en essayant de renforcer l'efficience énergétique, etc. Et donc, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est plutôt une sorte de rééquilibrage et de redéfinition des intérêts mutuels. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut percevoir ça comme une sorte de glissement dans la relation, mais chacun essaie de rétablir, en fait, sa propre stratégie, eut égard de ses propres intérêts.
Rééquilibrage et redéfinition des intérêts mutuels. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Aurélie Brosse, chercheure associée à l'IFRI et consultante pour le Centre d'analyse de l'Observatoire France-Russie à Moscou, Thierry Brosse, chercheur associé à Oxford, professeur et auteur du livre After the US Shale Gas Revolution. Je signale l'apparition prochaine d'un ouvrage commun à tous les deux qui s'intitule Géopolitique du gaz russe, apparaître dans le courant du premier trimestre 2017 dans les carnets de l'Observatoire franco-russe. Vous pouvez retrouver l'émission information sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'Algérie. À demain.